Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, chers fidèles, Saint Paul commence l'été d'aujourd'hui par cette belle parole « Soyez des imitateurs de Dieu, comme des fils bien-aimés ». Et Saint Paul, vous l'avez certainement remarqué à travers ces épîtres qui passent et que nous avons commentées, Saint Paul insiste et revient sans cesse sur cette idée, puisque nous sommes enfants de Dieu, ou comme il le dit à la fin de cette épître, enfants de lumière, nous devons agir comme tels, agir en enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai. C'est que Saint Paul est un converti non pas du paganisme. Saint Paul n'était pas non plus un pécheur public. Saint Paul n'était pas non plus, peut-on dire, un juif ordinaire. Saint Paul était un pharisien, et même parmi les plus zélés dans les pharisiens. Il persécutait l'Église de Dieu avant sa conversion. Et justement, le phariséisme, tout le danger du phariséisme, c'est ce moralisme purement extérieur, mais qui à l'intérieur, comme le dit notre Seigneur Jésus-Christ, n'est que pourriture. Les Juifs tenaient énormément à toutes les pratiques extérieures de la loi, telles que laver la coupe avant de manger à l'extérieur, à l'intérieur, toutes les petites pratiques du sabbat, et ainsi de suite. Mais intérieurement, ce n'était qu'orgueil, ce n'était qu'hypocrisie, ce n'était que vanité, ce n'était qu'avarice. Et en se convertissant, en étant converti par notre Seigneur Jésus-Christ, certainement, Saint Paul a compris d'une manière toute particulière cette profondeur de la conversion, de la grâce qui nous renouvelle, qui nous rapproche de notre Seigneur, nous rend d'autres Christ, comme il le dit lui-même, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et c'est pourquoi il y revient sans cesse. Et aussi parce que c'est une vérité extrêmement importante. À la fin de son évangile, Saint Jean fait remarquer qu'il a dû omettre de très nombreux épisodes de la vie de notre Seigneur pendant sa vie publique. Il était impossible de tout raconter, de raconter tout ce qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ au cours de ces 3 années. Et pourtant, vous avez tous en tête les nombreux passages où l'on voit dans les évangiles notre Seigneur s'opposer aux pharisiens. Et pourquoi pensez-vous que les évangélistes ont tenu à rapporter si souvent ces luttes entre Jésus-Christ et les pharisiens? Sinon parce que le phariséisme est au fond un danger de tous les temps. Ce n'est pas seulement une secte qui a existé il y a 2000 ans, qui s'est éteinte il y a environ 2000 ans. Non, c'est un danger sans cesse renaissant, qui est en fait inhérent à notre nature blessée par le péché originel et qui a trop tendance à se laisser impressionner, à trop s'abesantir sur tout ce qui est extérieur et à négliger la vie intérieure. Et c'est d'autant plus redoutable que ce moralisme purement extérieur garde toutes les bonnes apparences. Les pharisiens paraissaient presque des saints, en fait, en ce temps-là, au temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, intérieurement, c'était loin d'être le cas. C'est donc très important, Saint Paul y insiste, parce qu'il faut se pénétrer de l'esprit de l'Évangile. Et cela, c'est surtout par l'oraison qu'on y arrive, en pensant à notre Seigneur Jésus-Christ, en conversant avec notre Père du ciel, tout simplement. Bien, cela nous renouvelle intérieurement, cela nous donne ce vrai esprit, l'esprit de l'Évangile. Et Saint Paul continue en disant « Marchez dans la charité ». Il revient sans cesse, là aussi Saint Grégoire le Grand dit que nous avançons vers le ciel à pas d'amour, parce que par la charité, nous nous rapprocherons de Dieu, qui est notre destinée, tout comme en marchant, nous nous rapprochons de notre destination. Et Saint Paul continue, marcher dans la charité à l'exemple du Christ. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ a tant insisté sur cette vertu de charité, qui est la première parmi toutes les vertus. Notre Seigneur disait bien, à la fin de sa vie terrestre, à cela, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, que vous vous aimiez les uns les autres. Et cela vaut pour nous qui sommes catholiques, pour nous qui sommes traditionalistes. On doit nous reconnaître des autres, des infidèles, ceux qui n'ont pas la foi, doivent nous reconnaître à l'amour que nous nous portons les uns les autres, que ce soit en famille, que ce soit également dans la paroisse. Il faut savoir s'examiner là-dessus, surtout au cours du carême. Et l'amour de notre Seigneur a été un amour effectif. Notre Seigneur ne s'est pas payé de mots. Comme le dit saint Paul, à l'exemple du Christ qui s'est livré pour nous. Notre Seigneur nous a montré sa charité en mourant sur la croix, en donnant sa vie pour nous, en versant tout son sang pour notre salut. Et comme le dit notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et saint Paul rajoute, dans l'Épître aux Romains, notre Seigneur a donné sa vie non seulement pour nous, mais surtout pour des pécheurs. Parce que par le péché originel, l'humanité entière était enfant de colère, était ennemi de Dieu, ennemi de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour les ennemis que notre Seigneur a donné sa vie, pour nous racheter. Comme une oblation et un sacrifice d'agréable odeur à Dieu. Cela nous est sans cesse rappelé, cet amour de notre Seigneur, au cours de la Sainte Messe. Tous les dimanches, vous y assistez, et parfois même en semaine, si possible. Bien, cela nous montre la charité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est important, lorsque nous assistons à la messe, d'y penser. Ce n'est pas seulement un rite purement extérieur. Notre Seigneur est là, sur l'autel, et renouvelle son sacrifice, cet acte de plus grande charité, et il nous invite à l'imiter, surtout dans la communion. Il nous donne la grâce, nous aussi, d'aimer notre prochain et de nous sacrifier pour lui. Et saint Paul dit d'agréable odeur, donc un sacrifice d'agréable odeur à Dieu. Agréable odeur parce que par nous-mêmes, pécheurs, l'humanité entière était bien incapable de se racheter elle-même. L'humanité était ennemie de Dieu et donc bien incapable de plaire à Dieu et donc de réparer son péché. D'autant plus que le péché a une gravité infinie. Seul notre Seigneur Jésus-Christ, vrai homme, et vrai Dieu tout ensemble pouvait racheter réellement, bien nous racheter réellement et en justice réparer tous les péchés. Et d'une certaine manière, nous aussi nous devons nous sacrifier à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ pour la conversion des pauvres pécheurs. D'une certaine manière, les pécheurs sont bien impuissants, du moins il serait bien difficile de se convertir parce qu'ils ne connaissent pas notre Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas la grâce en eux, ils n'ont pas la foi, donc ils sont non pas totalement hors d'atteinte. Dieu les sollicite toujours par sa grâce, bien sûr, mais cette grâce a bien du mal à passer. Et c'est pourquoi il est si important que nous nous sacrifions, que nous prions pour les pauvres pécheurs. C'est Notre-Dame à Fatima qui dit « Il y a tant de pécheurs qui vont en enfer parce qu'il n'y a personne qui prie et se sacrifie pour eux. » Nous devons comme leur tendre la main, notamment en ce carême, est-ce que nous faisons vraiment des sacrifices pour la conversion des pauvres pécheurs? Est-ce que nous avons cette vraie charité qui se montre par des œuvres vraies, de véritables fruits, des vrais sacrifices, des vraies prières pour le salut des âmes? Est-ce qu'on y pense ou est-ce qu'au contraire on s'enferme dans son petit égoïsme? Pour moi, tout va bien, je suis sur la bonne voie, j'ai la messe, j'ai les sacrements, j'ai la foi, j'ai l'enseignement et les autres, tant pis pour eux. Non. Il ne faut pas penser cela, il faut se sacrifier pour les pauvres pécheurs. Enfin, saint Paul va montrer le rayonnement de cette charité, de cette imitation de Dieu et du Christ. Rayonnement qui doit s'étendre à tous les aspects de notre vie. Et là, saint Paul s'en prend en trois vices, donc deux qu'il a mentionnés dans l'épître du dimanche dernier, la fornication, donc l'impureté, et l'avarice, la cupidité. Et puis ensuite, les paroles déshonnêtes. D'une certaine manière, ces trois vices peuvent résumer un peu tous les dangers de notre qui s'attaquent à notre âme, parce que comme le dit saint Jean, dans le monde, toutes les concupiscences de la chair, concupiscence des yeux et orgueil de la vie. Contre la concupiscence de la chair, c'est bien sûr l'impureté. Concupiscence des yeux, c'est l'avarice. Et d'une certaine manière, les paroles malséantes, déplacées, sont très souvent dites par orgueil. Donc, en s'en prenant ces trois vices, Saint Paul s'en prend d'une certaine manière à tous les péchés. La fornication et l'avarice excluent du ciel. Par rapport à l'impureté, nous en sommes bien persuadés, nous en sommes bien conscients. Nous sommes temple, par la grâce, nous sommes temple du Saint-Esprit. Il y a bien sûr une incompatibilité radicale entre le vice de l'impureté et l'inhabitation du Saint-Esprit dans une âme. Donc, l'impureté exclut du ciel. Mais pour l'avarice, pour la cupidité, est-ce que nous en sommes bien persuadés que cela exclut du ciel? Et Saint Paul a une expression extrêmement forte en parlant de l'avarice. Il appelle une idolâtrie, servir les idoles. Et cela fait référence à une parole que vous connaissez tous, une parole de notre Seigneur Jésus-Christ, « Nul ne peut servir deux maîtres ». Et de fait, l'avarice, quand il est vraiment consommé, une avarice totale, peut-on dire, l'avarice fait qu'on place tous nos désirs, on place l'argent comme notre fin dernière. Et cela, on le voit bien d'ailleurs aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle de réussir sa vie, en fait, c'est sa fin dernière. Quand on dit réussir sa vie, c'est-à-dire atteindre sa fin dernière. Qu'est-ce que réussir sa vie pour nos contemporains? Sinon, avoir beaucoup d'argent, avoir beaucoup des biens de ce monde. Tout cela aujourd'hui, avoir un bon métier, c'est réussir sa vie. Et n'avons-nous pas, nous-mêmes, un peu tendance à penser cela? Est-ce que pour nous, réussir notre vie, ce ne serait pas avoir un bon métier, avoir une facilité de ce monde, avoir du confort et tout cela? Alors que réussir sa vie, c'est aller au ciel, c'est être en état de grâce, c'est aimer notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela, ça doit être vécu par chacun d'entre nous. Il faut que, tout au cours de la journée, nous ayons cette préoccupation constante, claire à notre Seigneur Jésus-Christ. Il a mis tout notre cœur, puisque toute notre vie consiste en cela. Comme chrétien, vous devez, bien sûr, user des biens de ce monde comme une nécessité, comme vous en possédez. User des biens de ce monde, mais ne pas s'attacher aux biens de ce monde. Et de l'un à l'autre, la pente est bien glissante. Donc c'est important, là aussi, pendant ce carême, peut-être, de s'examiner là-dessus. Est-ce que nous sommes vraiment détachés des biens de ce monde? De prendre des bonnes résolutions. D'autant que c'est un danger qui est très réel, parce que l'avarice, un peu comme le pharisaïsme d'ailleurs, laisse facilement des apparences intactes. L'avare, celui qui est attaché aux richesses, peut être un homme très pur, parfaitement respectable, un homme même qui prie, qui est pieux extérieurement. Mais à l'intérieur, son cœur est tout rongé par l'attachement au bien de ce monde. Donc c'est un danger très réel auquel il faut prendre garde, comme dit Saint Paul. Mais aussi, et en terminant, Saint Paul nous dit que la charité, l'imitation du Christ doit s'étendre jusqu'à nos paroles, jusqu'à toutes nos conversations, éviter toutes des paroles déshonnêtes, des plaisanteries déplacées, des grossièretés, on pense aux gros mots. Saint Grégoire de Nazian, c'était dans le carême de l'an 382, pour expier ces paroles inutiles, c'est pas tellement des paroles déplacées, non, on n'en avait pas, mais ces paroles inutiles s'étaient imposées pendant les 40 jours de carême, un silence absolu. Il n'a pas dit un mot. Un silence parfait. Évidemment, on ne vous demande pas d'appliquer une pénitence si radicale, ce serait difficile. Mais cela nous montre tout de même l'importance qu'il y a à surveiller nos conversations. Déjà parce que nos paroles ont une très grande influence sur notre cœur. Comme le dit notre Seigneur Jésus-Christ, nous parlons de l'abondance de notre cœur. On peut dire en sens contraire que lorsque nous surveillons notre langage, nous réussissons facilement à corriger des attachements de notre cœur et nos pensées. Il est difficile de directement canaliser nos pensées et notre cœur, parce que nos pensées sont tellement mobiles. Et donc c'est pourquoi, lorsqu'on veut se corriger intérieurement, l'un des meilleurs moyens, c'est de surveiller nos paroles. Par exemple, un vaniteux, quelqu'un qui est facilement à l'intérieur attaché à sa réputation, le meilleur moyen de se corriger, c'est d'éviter de se vanter, d'éviter de se mettre à l'avant dans ses paroles. Petit à petit, dans le cœur, se corrige. Et puis ensuite, nos paroles ont une grande influence sur notre entourage. Si nous avons des paroles déshonnêtes, des plaisanteries un peu déplacées, si nous disons facilement les gros mots, cela détériore un peu tout l'entourage avec lequel nous nous trouvons. Cela met un mauvais esprit, un esprit malsain qui ne porte pas au bien. Alors qu'au contraire, lorsque nous avons des bonnes paroles, des bonnes conversations, cela élève tout le monde autour de soi. Nous sommes vraiment un exemple et en même temps, nous portons les âmes vers Dieu. Donc, c'est l'une des plus grandes charités qu'on peut faire. On peut citer ce bel idéal de vie, la Saint-Dominique, qui ne parlait qu'à Dieu ou de Dieu. Toutes ses paroles étaient édifiantes. Et pour conclure, Saint Paul dit, vous étiez ténèbres, nous étions dans le péché avant le baptême. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Nous sommes tous régénérés par la grâce, ce don merveilleux de la grâce qui nous rend semblables à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien que Notre-Dame nous donne de nous conformer à cette grâce, d'y collaborer, ou comme le dit Saint Paul, de marcher comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en tout ce qui est bon, qui est juste et vrai, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.